Radio Okapi.
Le journal présenté par Belinda Bosuma.
Les bouts du territoire congolais qui sont occupés par les forces d'agression seront tous récupérés un par un. C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie, réunion tenue hier à Kinshasa et présidée par le président de la République. Les communautés Baema, Dirumu et de Mobala d'accord pour résoudre pacifiquement leurs différends pour une cohabitation pacifique. À cette occasion, 78 vaches volées le dimanche dernier par la milice FPIC à Kabarole dans la chefferie de Baema, Dirumu ont été restituées à leurs propriétaires de l'entité voisine. Et puis, ce matin, nous recevons Dr Bouiza Vumilia. Elle est promue directrice du Centre national de transfusion sanguine à Kinshasa. Après avoir été coordonnatrice de ce centre au Nord Kivu pendant 20 ans, elle nous parle de son parcours toutes ces années au niveau provincial. À tous et à toutes, bonjour. L'actualité reste marquée par cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie, réunion présidée par le chef de l'État où la situation opérationnelle dans toute la RDC, spécifiquement dans l'Est, a été évoquée. Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui a fait le compte-rendu de cette réunion, les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront tous récupérés un par un. Je vous propose de suivre le ministre Patrick Muyaya dans cet extrait choisi par Blaise Makasinandes.
Nous venons de terminer une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu, à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès.
Rendons-nous en Ituri. Les autorités coutumières de Baema, Dirumu et de Mobala ont résolu de résoudre pacifiquement leurs différends pour une cohabitation pacifique entre les deux communautés. Au cours d'une rencontre lundi, 78 vaches volées le dimanche dernier par des miliciens de la Force patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC, à Kabarole, dans la chefferie de Baema, Dirumu, ont été restituées à leurs propriétaires de l'entité voisine. Ces bêtes avaient dévasté les champs des paysans au village de Balazana. Martial Kiza nous raconte.
La cérémonie de restitution de vaches volées s'est déroulée à Balazana en présence de toutes les couches de la population de deux communautés. Il s'agit entre autres des leaders du groupe armé, la Force patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC, du mouvement armé d'autodéfense populaire de l'Ituri MAPI, des présidents des jeunes de Kabarole et Balazana. Tous ont salué cette démarche et se sont engagés à résoudre pacifiquement certains dossiers entre les communautés Bira et Emma, mais surtout à privilégier les vivre ensemble entre eux. Pour les gouverneurs des provinces, la paix en Ituri ne peut être possible sans les pardons et la réconciliation entre les communautés malgré l'option militaire. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans le territoire de Beni, le bourgmestre de la commune rurale de Kiondo appelle sa population à œuvrer pour la paix et le développement de cette entité. C'était lundi lors de la toute première parade de l'année qui s'est tenue dans la cour communale en présence des représentants des différentes couches sociales et des chefs des différents services étatiques de cette commune. Joachim Mouindo demande également aux jeunes de quitter les groupes armés. Le compte-rendu de Marc Marofimbo.
Pour cette première parade de l'année 2025, le bourgmestre de la commune rurale de Kiondo a commencé par l'évaluation de la situation générale de cette commune. Joachim Widoviaula a ainsi rappelé l'insécurité causée par les groupes armés locaux qui s'affrontaient régulièrement dans cette entité, tout en s'attaquant aux éléments défardaisés basés dans cette région. Il a toutefois souligné l'amélioration de la production agricole dans les deuxièmes semestres de l'année écoulée, résultat de la calmie qui a régné dans cette zone. Pour 2025, l'autorité communale a invité ses administrés à la conscience de sa population au patriotisme et à œuvrer pour la paix et le développement de cette commune. Soyons des ambassadeurs de la paix, artisans du développement et méfions-nous des antivaleurs qui détruisent notre société et ruinent l'épanouissement de notre commune, a ainsi déclaré Joachim Muindo. Aux jeunes de la commune de Kiondo qui se sont enrôlés dans les groupes armés, le bourgmestre a demandé de quitter, je cite, la distraction et de déposer les armes afin de contribuer au développement de leur entité. Fin de citation. Signalons que la région de Kiondo est connue pour sa grande production de maïs, d'oignons, poireaux, pommes de terre, choux et de blé. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, les enseignants du secteur public de la province de Maïndombe ont manifesté hier dans les rues de la ville d'Inongo. Ils dénoncent le retard accumulé dans le paiement de leur salaire par la Caritas Congo. Les manifestants ont exprimé leur indignation face à des fêtes de fin d'année marquées par des privations à cause de l'impaiement. Dans une déclaration, ces enseignants lancent un ultimatum de 48 heures à la Caritas pour régulariser la situation sous peine de déclencher une grève le lundi prochain. Eric Nzawanza, président provincial du syndicat des enseignants de Maïndombe, explique au micro de Irène Boma.
Si nous avons fait la marche, nous déplorons les comportements de la Caritas. Nous sommes impayés. Or, la Caritas devait nous payer 2 mois, si tout est étendu de la province de Maïndombe. Mais il nous a payé seulement le mois de novembre. Arrivé le 25 décembre, il nous a promis que dans 2 jours, il va nous payer le mois de décembre, qu'on puisse attendre l'avion. Or, il était en train de dire des mensonges. Alors, jusqu'aujourd'hui, les enseignants ont fêté sans leur salaire. Donc, il y a eu des divorces, les enseignants se sont endettés, ainsi de suite. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes rassemblés, tous les enseignants, pour venir voir le sénateur Anissé, lui dire ce que les enseignants sont en train de ressentir. Alors, nous donnons 48 heures. Nous sommes aujourd'hui mercredi jusqu'à le samedi. Si le samedi, la Caritas ne nous paye pas, le lundi, aucun enseignant et agent de bureau gestionnaire ne se présentera à l'école. C'est ça notre objectif.
Par ailleurs, les manifestants demandent que leur salaire soit transféré à une autre banque plus accessible et fiable pour éviter tout désagrément à la prochaine paie. Radio Capi a tenté en vain de joindre la Caritas Maïndombe à ce sujet. Restant dans la province de Maïndombe, les conseillers communaux d'Inongo sont confrontés à une situation économique très précaire pour le fonctionnement de leurs organes et pour leur rémunération. Devant la presse mardi, ils ont affirmé être impayés depuis 12 mois au niveau national. Aussi, malgré une circulaire du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, demandant aux exécutifs provinciaux de soutenir le fonctionnement des conseils communaux, cela fait 4 mois qu'ils ne sont pas pris en charge par le gouvernement provincial. Face à cette situation, certains élus envisagent de retourner à leurs activités agricoles de pêche ou de chasse qu'ils exerçaient avant leur élection. Le point avec Irène Boma.
Les défis sont les mêmes dans tous les 3 conseils communaux de la ville d'Inongo depuis leur existence il y a de cela 12 mois. Par exemple, le conseil communal de Bonse est en difficulté de payer les loyers. Les élus sont obligés de se cotiser pour tenir des plénières. Le président de ce conseil communal affirme qu'aucune aide financière ne leur a été accordée par l'exécutif provincial pendant 4 mois. Seba Manongo en appelle à l'intervention du gouvernement central.
Nous demandons au niveau national s'il peut faire quelque chose pour nous. Il y a quelques conseillers qui faisaient la pêche, la chasse, les enseignants, ils ont tout abandonné. Maintenant, on commence à raisonner, recommencer encore. Mais est-ce qu'un honorable peut continuer encore à faire la pêche, la chasse?
Joint à ce sujet, le gouverneur du Maïndombe, Lebon Kosokevani, réagit comme suit.
On a fait 5 mois et je leur ai déjà donné une fois 6 millions de francs congolais, 2 millions par commune. Une fois, j'ai payé à chacun 200 dollars et dernièrement ici, nous n'avons pas non plus reçu le fonctionnement et j'ai donné seulement 1 500 000 à 500 par commune pour le fonctionnement.
La ville d'Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombe, compte 21 conseillers communaux en raison de 7 par commune. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis, le regard citoyen du peuple appelle le président de la République à abandonner son projet de changement de la Constitution, appel lancé mercredi à Kinshasa lors d'un séminaire de réflexion et de renforcement des capacités des forces sociales sur la Constitution. Pour ce réseau, le changement de la Constitution est non seulement une violation de celle-ci, mais aussi constitue un danger pour le pays qui traverse des moments difficiles, notamment sur le plan sécuritaire. On écoute à ce sujet Jean-Pierre Samba, coordonnateur du regard citoyen du peuple. Il est au micro de Grâce Amzati.
Les réseaux estiment que nous ne pouvons pas permettre à ce que quelque chose qui ne figure pas dans la Constitution devienne une nouvelle règle qu'on impose à tout un peuple. Ça serait prendre, n'est-ce pas, le peuple non seulement en otage, ça serait aussi et surtout violer, n'est-ce pas, cette Constitution. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas abandonner le pouvoir. Or, quand on refuse mordicus d'abandonner le pouvoir, il peut arriver un moment donné où le pouvoir vous abandonne. Nous réfléchissons. Nous allons, n'est-ce pas, produire des éléments à communiquer à tous les décideurs, ceux qui voudront, n'est-ce pas, écouter la voix du peuple, écouteront. Faire en sorte que le moment qui traverse le pays ne soit pas considéré, n'est-ce pas, comme un moment récréatif où on doit se permettre tout. Le pays est en état de guerre, le pays est en état de siège. Ces différents moments préoccupants doivent plus, n'est-ce pas, permettre à ce que nous puissions nous souder, nous puissions voir ce qui est essentiel, bouter d'abord les ennemis dehors et rétablir la paix dans notre pays. Et s'il y a notion, n'est-ce pas, des révisions de certains articles de la Constitution, parce qu'on ne peut pas refuser une révision de la Constitution à un peuple qui veut, n'est-ce pas, la réviser, eh bien, on en parlera en ce moment-là.
Nord Kivu, la campagne de lutte contre les diplômes sans compétences a été lancée mardi dans la ville de Beni. C'est une initiative d'une coalition de 9 organisations de la société civile de Beni qui vise à sensibiliser les élèves dans différentes écoles de la place. L'objectif est de leur montrer le danger d'une mauvaise orientation ou du changement d'option au degré terminal. La plupart des élèves qui terminent les études secondaires n'ont pas assez de compétences, indiquent les initiateurs de cette campagne. Samuel Donkatembo Sekanabo, point focal de cette coalition, explique au micro de Guylaine Kassassia.
C'est une campagne que nous avons conçue sur base de l'analyse et l'étude du mouvement de nos frères cadets dans les classes terminales. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'enfants qui commencent d'abord le cursus normal au niveau de l'école primaire. À commencer l'école secondaire, c'est là que tout devient flou. Il y a beaucoup d'enfants qui abandonnent durant le cursus scolaire, mais ils veulent aller se rattraper au niveau de la sixième année. Mais il n'y a pas de bagages. À part ça, il y a aussi d'autres enfants, ils optent pour changer d'option. Vous allez constater que celui qui a fait 4 ans des humanités scientifiques, il vient présenter en nutrition. La question est de savoir, il est qualifié en nutrition, mais est-ce qu'il a des compétences en nutrition? Et s'il faut qu'on l'engage quelque part, on va l'engager comme nutritionniste ou comme scientifique. Et demain ou après-demain, nous allons assister à un taux de chômage suite à des diplômes qui n'ont pas de valeur. Notre activité, c'est maintenant la sensibilisation dans nos écoles.
En Ituri, signalons l'adoption hier du plan provincial de la masculinité positive. C'était au terme d'une journée de sensibilisation organisée par la section genre de la MONUSCO Bounia en collaboration avec les autorités locales. Selon cette structure, ce document définit les actions clés pour promouvoir la masculinité positive dans la société. Explication Martial Kizabiamungu.
Une trentaine de personnes, membres des organisations du système des Nations Unies, structures féminines et des jeunes, la police nationale congolaise FRDC, responsable des établissements scolaires et autorités locales, se sont engagées pour la promotion du genre dans leurs organisations respectives. Cela pour combattre la discrimination féminine non seulement dans les foyers, mais aussi dans les lieux de travail, comme le dit Alain Rubenga, responsable de la section genre à la MONUSCO.
La masculinité positive veut que les hommes puissent se comporter d'une manière respectueuse des droits des femmes et des jeunes filles. Et cela commence par la famille et ça s'étend jusque sur toute la communauté. C'est-à-dire que à partir du foyer déjà, nous devons partager les responsabilités.
L'un des participants, Yakusu Dede, de l'ONG Union des jeunes congolais pour les changements, indique que cette démarche vise à obtenir surtout les changements de mentalité dans les familles. familles et communautés locales. Cette vulgarisation sur la masculinité positive va s'étendre dans les 5 territoires de l'Ituri, précisent les organisateurs. Bounia, Martial, Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Actualité internationale. Une femme ministre au Vatican, une première, sœur Simona Brambilla, religieuse italienne, dirigera désormais un ministère du Vatican en charge des ordres et des congrégations religieuses, un poste jusque-là réservé aux cardinaux et exclusivement masculin. Cette avancée, portée par le pape François, saluée comme un symbole d'ouverture, suscite néanmoins des interrogations.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Dr Bouiza Vumilia Liliane, coordonnatrice honoraire du Centre provincial de transfusion sanguine du Nord Kivu. Elle est promue directrice au niveau national de ce centre. Elle nous parle du bilan de son parcours de 20 ans à la tête du Centre provincial de transfusion sanguine au Nord Kivu. Elle s'entretient avec Denise Lukeso à l'occasion de la cérémonie de remise et reprise hier avec celle qui l'a remplacée.
Docteur Liliane Bouiza, bonjour.
Oui, bonjour.
20 ans à la tête du Centre provincial de transfusion sanguine Nord Kivu, avec quel bilan?
Je dirais fortement positif. Tout a commencé par un rêve. C'était en juin 2005, lorsqu'on a pris les bâtons de commandement. Nous, on s'est donné 15 ans. On s'est dit que dans 15 ans, nous devons parler de la sécurité transfusionnelle à 70% dans cette province. Et voilà. Aujourd'hui, je vais dire que nous avons construit 4 laboratoires spécialisés. Il n'y en avait pas. Il y avait qu'un seul hôpital avec banque de sang. Aujourd'hui, nous avons 80. Pour un besoin de 132, je dirais que à temps, la qualification biologique, on le faisait d'une manière manuelle et les 4 laboratoires du centre de transfusion sanguine sont automatisés. De donneurs de sang à 100 ans, il y avait que 6% de personnes qui donnaient du sang comme donneurs bénévoles. Aujourd'hui, nous sommes à 85,7%. Il n'y avait aucun hôpital avec un comité d'hémovigilance. Aujourd'hui, nous avons environ 70 structures hospitalières avec hémovigilance. Bon, je vais dire que le bilan, il est vraiment positif parce que le transfusion qui se font dans les hôpitaux aujourd'hui, ils sont couverts à 60% du sang qui vient du centre. C'est-à-dire on a centralisé la qualification biologique, on a centralisé les collectes du sang dans ces laboratoires et on les distribue dans les hôpitaux. Donc, on a amélioré la disponibilité du sang dans les hôpitaux. On a réduit la transmission d'une manière significative du sang. La réduction de maladies infectieuses par le sang. Voilà, donc on a eu à sauver plusieurs vies grâce au travail qu'on a eu à faire. Parmi les 4, hein, il y a 3 centres qui ont vraiment ses propres édifices. Il nous reste celui de Béni. Et d'ailleurs, pour Béni, on avait déjà acquis un terrain qu'on a clôturé. Et c'est 2025, c'était question de bâtir aussi un édifice pour le centre de transfusion de Béni.
Un parcours avec beaucoup de réalisations, selon vous. Et quels sont les obstacles ou difficultés que vous aviez aussi rencontrés pendant ces parcours?
Oui, c'est qu'il faut dire que la production du sang sécurisé est budgétivore. Une poche du sang sécurisé coûte environ 80 $. Mais la population n'a pas la capacité de se donner ces luxes-là. Et c'est ce qui a été vraiment un obstacle. Comment arriver à produire du sang avec des maigres moyens? Il fallait se battre, faire de plaidoyers, allier les partenaires à souscrire à ces manquements. Ça, c'est un de deux. Sensibiliser, éduquer la population sur l'importance des dons bénévoles de sang, ça n'a pas été aussi vraiment facile. Ça, c'est vraiment un défi majeur. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, la couverture en sang sécurisé, d'une manière générale, c'est à 52%. C'est un travail de fond que nous devons vraiment faire avec l'autorité provinciale. Comment mobiliser, sensibiliser, éduquer la communauté que nous sommes pour savoir que le sang, c'est l'affaire de tout le monde. Ça, c'est un autre obstacle majeur qui n'est pas aussi facile parce qu'il faut dire que les gens continuent toujours à mourir. Aujourd'hui, par un manque du sang, parce que le besoin de sang ne fait qu'augmenter, surtout dans notre province qui a été caractérisée avec l'insécurité et la situation des guerres. Bien sûr que le gouvernement national a appuyé, les gouvernements provinciaux l'ont appuyé, mais il y a encore un problème. On n'est pas encore arrivé à faire tourner de soi le centre de transfusion. Il faut toujours mener des plaidoyers à l'extérieur pour que cela soit une réalité.
Des nouvelles fonctions qui vous attendent au niveau national, comment allez-vous faire face à ces défis et qu'est-ce que les autres centres provinciaux peuvent attendre de vous à la tête de cette grande institution?
En fait, premièrement, nous devons d'abord faire l'état des lieux. Nous devons comprendre pourquoi le gouvernement ou l'État n'arrive pas à financer correctement les activités de la production du sang. Et nous organisons des réunions, comme je dirais, un atelier plaidoyer, des sensibilisations des autorités, d'abord de bailleurs, parce que je sais qu'il y a assez de ressources, il y a de l'argent au niveau pays, mais par moment on n'a pas montré la grande problématique de production du sang. C'est à nous aujourd'hui de montrer cette grande problématique, de sensibiliser les autorités, de les amener à se rallier à la problématique du sang, afin que demain on essaye un peu d'appuyer les secteurs de la transfusion sanguine au niveau pays.
Docteur Liliane Nebouza, merci.
Voilà, notre invitée et coordonnatrice, elle est promue directrice nationale du centre de transfusion sanguine ici à Kinshasa. Elle s'entretenait avec Denise Lukeso. Par ici prend fin ce journal, supervisé par Alain Rumouchinge, Deps Vita à la mise en onde. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix en compagnie de Bayat Chamala.